Alors ça, je ne supporte plus ces pleurs, j'ai peur de le secouer, mais les pleurs, tu les entends pas quand c'est un... Quand c'est un bébé?
Ah non, mais c'est... Si, quand c'est un bébé, la... c'est... Donc, la... C'est périnatalité.
C'est,
donc
début,
c'est
début et après...
Deux entretiens en prénatal, deux entretiens en postnatal. Oui. Et la période d'attachement, c'est justement la période où le bébé vient de naître.
D'accord.
Et où il va se passer des choses entre lui et ses parents
donc, vont... c'est pas seulement... C'est, au début, j'avais compris ça la première fois qu'il n'arrivait pas. C'est pas seulement la période de la grossesse, mais c'est la période... c'est surtout la période de...
Qui est une période de grosse adaptation pour tous les deux, pour les parents et pour l'enfant. Et tu vois, dans Télérama de cette semaine, c'est un hasard, hein, il y a cet article-là de la philosophe Claire Marin, qui est vraiment complètement dans nos préoccupations, et qui dit, et si la première... si notre première rupture, c'était la naissance.
Bah oui, moi,
ça arrive en plus.
J'en suis convaincue.
Ça arrive, hein.
Voilà. J'étais bien chez maman.
Alors, là, avec les filles, là, tout à l'heure, j'ai discuté, on me disait, parce que ça, c'est quelque chose qui aide les parents un peu à penser et à se mettre dans la situation. Imagine ce qu'il peut traverser un bébé dans les trois premières minutes de sa vie. Donc il est dans le ventre de sa mère, il n'a jamais faim, il n'a jamais ni trop froid ni trop chaud,
ouais.
Il n'est jamais ébloui, il est habitué à une musique régulière des bruits de sa mère,
ouais.
Son tube digestif est au repos, enfin bon. Il sort, il est dans une piscine chauffée, et que des coussins, le placenta,
etc.
Tu te rends compte, il sort, d'abord il est soumis à la pesanteur, là, tout d'un coup, à l'air, et qui est quelquefois un peu frais par rapport à ce qu'il y avait au ventre, et puis il va se mettre à avoir faim, enfin, ça va être quand même hyper étrange ce qui lui arrive. Je pense que ça, on n'aura jamais de situation aussi étrange dans notre vie. Et donc... Les Anglais, ils ont été amenés à s'interroger sur cette période-là, parce qu'ils ont eu un truc au moment de la guerre, comme Londres devait être bombardée, les enfants ont été mis à l'abri. Donc les enfants ont été, tous âges confondus, les enfants ont été séparés de leur famille. Mmh. Et après, ils ont observé des troubles psychologiques. Enfin voilà. Mmh. En tout cas, ils se sont intéressés aux enfants par cette histoire qui pouvait être traumatique là, qui leur est arrivée. Et ils ont pensé autour de l'attachement. Donc ça, c'est dans les années 50. Et nous, la première fois que ça arrive ici, on est dans les années 77. Ils ont des pédopsychiatres très reconnus qui se sont intéressés à ça. Et nous, on s'est pas intéressé à ça. C'est vrai. On ne parle pas de la théorie de l'attachement dans les études de médecine.
Ah oui.
On en parle un peu chez les infirmières, mais les médecins ne sont pas du tout au courant de ça. Or, quand le bébé va se trouver dans ce monde étrange-là, évidemment, il va se manifester. Comment il se manifeste? Il se manifeste en pleurant. Nous, on est encore, tu peux discuter avec les gens, il y a encore plein de gens qui pensent que si tu prends un bébé dans les bras quand il pleure, tu lui donnes des mauvaises habitudes et que tu vas en faire un capricieux. Il y a encore plein de gens qui pensent ça. Hein? Alors que il commence à y avoir des étudiants en médecine, des femmes souvent qui commencent à faire des thèses sur les pleurs là, parce que justement elles se disent soit elles ont eu des enfants, soit elles sont allées en pédiatrie, elles ont vu des choses un peu qu'elles n'ont pas comprises. Et donc Hélène Chopin, elle a fait une thèse il y a deux ans là-dessus. Elle dit c'est quand même pas la même chose de pleurer dans les bras de quelqu'un que de pleurer tout seul dans son lit. On ne va pas apprendre au bébé à ne pas pleurer. C'est pas possible. Ça ne correspond pas du tout à leur stade de développement. Ils n'ont que ce moyen d'expression là pour exprimer un inconfort. Quand on demande aux parents, pourquoi, à votre avis, pourquoi les bébés pleurent? Avant la naissance, on a dit, alors pourquoi les bébés pleurent? Donc ça revient tout le temps, la faim, la couche, les bras. Ils se rendent bien compte qu'il y a aussi ce besoin-là, la fatigue. Enfin, il y a de multiples raisons et il n'y a pas qu'une réponse. Mais en tout cas, on va plutôt aller du côté du réconfort. Bon, et après, il a aussi que le bébé, quand il naît, il n'est pas très bien équipé au niveau occupation, si tu veux, il n'a pas beaucoup d'outils. Hein, c'est-à-dire qu'il ne voit pas très bien, il n'entend pas très bien, il, ses mains, il ne les commande pas, etc. Et donc, on s'aperçoit justement la période des pleurs, elle va être surtout pendant les trois premiers mois, et après, ça s'arrête tout d'un coup. Et d'ailleurs, maintenant, avec la trouille qu'on met aux parents sur la mort inattendue du nourrisson, c'est dans le carnet de maternité, ils ont un bébé qui pleure, il y a un quart des bébés qui pleurent beaucoup, un quart des bébés qui pleurent de l'ordre de 200 minutes par 24 heures, ça fait quand même plus de 3 heures jour et nuit, tu vois. Et ils n'entendent plus leur bébé pleurer, donc ils sont vachement inquiets, ils vont voir et ils trouvent le bébé ça y est, il s'est développé et il commence à avoir une autonomie. Et ça, c'est aussi compliqué à transmettre parce que quand on dit aux parents, bah, votre bébé, au début, la vie est difficile pour lui, il faut plutôt le réconforter, etc. Après, certains vont en rester à ce message-là, alors qu'en fait, rassurer son bébé, c'est pour lui permettre d'aller explorer le monde après, que pour l'autoriser à s'aventurer. Voilà. Mais ça, c'est aussi un peu le pouvoir médical, des gens qui savent, etc. Tu vois, mais il m'a dit ça. Comme tu sais, on a dit, il ne faut plus coucher les bébés sur le ventre. Bon, donc maintenant, on a un autre problème. C'est qu'on laisse bien les bébés sur le dos, hein, et on a maintenant des têtes plates. On a des problèmes des têtes plates. Oui.
Juste une parenthèse. J'ai connu en Tchécoslovaquie, j'ai connu des gens qui étaient des amis et les têtes plates, ce qu'ils appelaient comme ça, c'était les policiers parce que ils avaient des casquettes,
tu sais, avec le haut du crâne plat.
Oui, voilà, c'est voilà. Ça.
Tandis que là, c'est la tête plate derrière.
Derrière.
Voilà.
Parce que le bébé dort sur le dos.
Parce que voilà, il y a des parents qui ont tellement obéi à cette recommandation-là de façon stricte. Que si pour un peu que tu as un bébé qui dort beaucoup, qui est plutôt calme et qui passe des heures dans son lit, toujours dans la même position, le crâne il est modelable encore.
Oui.
Donc il va aller, et après les parents ils consultent parce que le bébé a la tête plate. Et puis après tu vas dans les magasins de puériculture et ils vont vendre des casques tout ça pour empêcher que le bébé ait la. Ah oui non mais ça devient fou comme histoire. Bon. Alors que ça n'a pas de répercussion.
Ça change rien.
Mais bon donc maintenant le conseil, j'ai vu cette semaine dans le journal, je crois que c'est dans West France. Donc les bébés sur le dos, sur le côté et sur le ventre, réveillés à côté de lui. Voilà. En tout cas, varier les positions, c'est comme l'alimentation. Tu varies l'alimentation, voilà, tu varies les positions. Sinon le bébé, il est tellement pas fini que il va prendre la forme qu'on lui donne. Voilà. Et donc tu vois, c'est un peu la difficulté que les parents intègrent, que leur bébé il est en perpétuelle transformation. En tout cas, quand il est tout petit, il a quand même besoin de réconfort. Voilà. Bon. Alors la conséquence de ça, c'est que c'est épuisant pour les parents. Un tout petit bébé est épuisant pour les parents. Tous les parents manquent de sommeil. Et quand même, principalement dans notre culture, au stade où on en est, c'est surtout les mères qui s'en aperçoivent. Bon, ça dépend comment est la mère par rapport à ça. Si elle ose se plaindre, si elle ose demander de l'aide, c'est la meilleure des situations. Mais il y a des femmes
qui
ne demandent pas. Il y a des femmes qui, le soir, quand le mari rentre, elles font comme si tout avait bien été. Elles ne veulent pas dire. Hein.